vous êtes avec Itri Hervoet sur Choc FM 105.1 Toronto. Je suis au téléphone avec le professeur Cornette. Professeur Cornette, bonjour.
Bonjour à Choc FM.
Et bonne année d'avance, professeur.
Merci à vous et bonne année à l'auditoire de Choc FM.
Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'on pourrait dire d'actualité. Le sujet, que veut dire l'espoir? Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus, professeur?
Oui, mais justement, la raison que l'espoir est d'actualité, l'arrière-plan, c'est ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis et dans le courant des élections américaines. Je rappelle à l'auditoire que Bill Clinton faisait beaucoup état du fait qu'il est né dans une petite ville en Arkansas qui s'appelle Hope. Et puis, c'est devenu comme une thématique dans sa campagne. Et puis, il y a une semaine à peine, la première dame des États-Unis était en entrevue avec nul autre que Oprah Winfrey. Et puis là, Oprah Winfrey lui a posé très justement la question sur l'espoir, que c'était... que Barack Obama avait misé beaucoup sur l'espoir, qu'il allait donner l'espoir, qu'il allait réaliser l'espoir. Eh bien, lors de cette entrevue, Michelle Obama a répondu que justement, c'était la clé de la campagne de Barack Obama, même de sa politique, mais que là maintenant, suite aux élections américaines, le peuple des États-Unis ressent à quel point qu'est-ce que c'est d'être sans espoir, de ne pas avoir d'espoir. Or, je tiens à souligner à Choc FM et j'invite l'auditoire à aller sur l'internet et de voir à quel point cette question d'espoir est devenue de l'actualité. Parce que beaucoup des médias ont instrumentalisé l'espoir. C'est devenu même une critique de Barack Obama, de son épouse. Et donc ça m'a poussé à réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est au fait l'espoir? Que veut dire l'espoir? Et quand on s'en sert pour des fins politiques dans les médias, comme on fait actuellement, et c'est dur à croire à quel point ça a résonné chez le peuple américain quand Michelle Obama a dit « Mais là, on ressent qu'on est sans espoir ». Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je me suis dit « Est-ce que l'espoir est forcément religieux ?» Est-ce que l'espoir, comme concept, comme idée, comme thématique, ça va de pair avec la religion? Et je dois vous dire, suite à tout cela et suite à la réflexion, j'arrive à croire que non. Je crois que l'espoir ne saurait jamais se limiter à une définition religieuse quelconque. Encore moins à la doctrine, et surtout pas au dogme, et que l'espoir échappe à des facettes institutionnelles. Donc ça m'a amené à penser qu'est-ce que c'est la différence entre la foi, entre la religion et l'espoir. Et j'en déduis que l'espoir est la force motrice de la condition humaine. Certes, ça va de soi avec l'instant de survie. J'ai suivi attentivement cette histoire d'un jeune couple qui était en randonnée il y a quelques semaines dans le nord de l'État de New York, dans cette chaîne de montagnes qu'on appelle Adirondacks. Et puis, au début de la randonnée, tout allait bien. Et puis, il croyait faire une randonnée de quelques heures, puis se grimper le deuxième plus haut sommet dans les Adirondacks, qui est 5000 pieds d'hauteur, eh bien, tout d'un coup, il y a un brouillard vraiment qui ne voit plus rien. Puis la température chute de 20 degrés, puisqu'on se souvient tous, n'est-ce pas, il y a à peu près 2 semaines, c'était le premier grand froid dans la région. Et là, ils ont perdu la piste, puis ils sont tombés. Puis ils étaient pendant 3 jours exposés au grand froid, puis tout ce qu'ils avaient en tête, tout ce qui les a gardés en vie, c'était l'espoir. Alors, je me suis dit à quel point l'espoir c'est la motivation. C'est l'espoir opère sur le plan affectif, mais aussi quand je pense à, pour revenir aux Américains avec les choix du cabinet de Donald Trump en ce qui concerne l'environnement, les questions écologiques, je me suis dit, on peut pas parler d'espoir pour la planète quand on pose des gestes qui sont tout à fait à l'encontre de la sauvegarde, de la préservation, du bien-être de l'environnement, de l'écologie, voire de la planète. Et je me suis dit donc, l'espoir, c'est quelque chose qui marie, qui effectue une synthèse entre des idéaux et la réalité. Donc, pour qu'un espoir soit valable, il faut que cet espoir soit bien fondé et il faut poser des gestes concrets. Il faut passer à l'action pour réaliser l'espoir. Et ce sont ces enjeux-là. Et d'ailleurs, je me suis demandé, mais quels sont les enjeux de l'espoir? Quels en sont les paramètres, les contours? Comment définir l'espoir? Et là encore, en tant que spécialiste en sciences des religions, et là je renvoie au premier principe, en philosophie, quel est le point de repère par excellence de l'espoir? Quel en est le, le locus classicus de l'espoir? Et en revanche, quel est le point de repère de la foi? Quel en est le locus classicus? Et ça, c'est pas hermétique, ce n'est pas une fausse dichotomie, mais je dirais que le point de repère de la foi, son locus classicus, c'est la révélation. C'est toute cette dimension divine, alors que l'espoir, je crois que le point de repère par excellence, son locus classicus, c'est la raison. Donc je crois qu'il y a la raison joue un rôle primordial dans l'espoir. Pour qu'on voit de façon claire, qu'on ait une clarté dans notre espoir, qu'on soit lucide vis-à-vis des questions qui sont devant nous. Là, on est à l'aube de 2017. Mais quelles sont les raisons d'avoir l'espoir alors qu'on entame en quelques jours une nouvelle année dans l'histoire de l'humanité? Et en tant qu'historien, c'est-à-dire ma spécialité, c'est l'histoire des sciences des religions. Là, je cite le grand historien Fernand Braudel, français. Il parlait de la longue durée. Et moi-même, je dois me poser la question, ai-je des raisons d'espérer, d'avoir l'espoir? Et quand je pense, même qu'on soit d'accord ou non avec la présidence de Barack Obama, toujours est-il, mademoiselle Everette, je suis un Américain né au Texas en 1950 et je peux vous assurer à l'auditoire de Choc FM, l'idée même d'avoir un président, et voilà l'ironie, un président noir à la Maison Blanche, dans mon enfance, dans ma jeunesse, et même comme jeune adulte à l'Université de Californie à Berkeley, où j'ai fait mes études du premier cycle, mais c'était impensable. Il n'y avait pas d'espoir. Et c'est là quand je pensais à toute la mouvance des droits civils des Noirs. Moi, je suis, j'ai vécu ce qu'on appelle la ségrégation aux États-Unis. C'est un synonyme pour l'apartheid. C'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans les premières années comme adulte. C'était l'apartheid. Alors là, je vois dans cette optique de Fernand Braudel de la longue durée. Eh bien, oui, il y a l'espoir, parce que ce qui était inconcevable, ce qui dépassait l'imaginaire d'avoir un président noir à la Maison Blanche, eh bien, ça s'est réalisé. Mais comment est-ce que cela s'est réalisé? Parce que l'espoir de ceux et celles qui ont précédé Barack Obama, Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, et j'en passe, Thurgood Marshall, qui est devenu par la suite, et ça aussi, ça dépasse l'imaginaire, un juge à la Cour suprême des États-Unis, un juge noir, qui avait milité comme avocat pour les droits civils. Et quand je regarde cette panoplie historique, je me suis dit, oui, il y a de l'espoir. Mais quand on passe à l'action, quand on a un programme, quand on pose des gestes concrets et qu'on milite pour l'espoir, pour le changement. Donc l'espoir pour moi, je tiens à le dire à l'auditoire de Choc FM, c'est que c'est à la fois et un réalisme certain et des idéaux, mais pour lesquels on milite afin de réaliser ces idéaux et que ces idéaux deviennent des réalités sociales, des réalités ethniques, des réalités culturelles et voire des réalités politiques, de sorte qu'on concrétise l'espoir et même de légiférer, de que l'espoir passe en jurisprudence. Je pense maintenant aux lois qui font que Barack Obama peut être président à la Maison Blanche, qu'un noir peut être à la Cour suprême des États-Unis. Et j'ose croire dans le cas de Toronto, de l'Ontario et du Canada, et c'est mon espoir, mademoiselle Hervouette, qu'on verra le jour que ça ne sera ni un anglophone de souche, ni un francophone de souche, mais ça sera un néo-canadien, un néo-torontoise qui devient mairesse, qui va devenir la première ministre de l'Ontario, voire du Canada. Parce que c'est ça l'avenir. Toronto, l'Ontario, le Canada, c'est un pays d'immigration. Donc, mon espoir, c'est que dans les positions politiques, y compris à notre Cour suprême du Canada, qu'on ait, et je ne peux pas m'empêcher de penser à la réalité autochtone. Je collabore avec des chefs, des artistes, des activistes autochtones depuis 27 ans. Quand mon espoir, c'est que les autochtones prennent leur place pleinement dans l'espace public de Toronto, de l'Ontario, du Canada, y compris dans la politique. Mais voilà mes espoirs concrets pour 2017 et pour l'avenir de Toronto, de l'Ontario, du Canada.
Merci beaucoup, professeur Cornette. Moi, j'avais une petite question, peut-être qu'elle va vous sembler un peu bizarre, mais je me suis dit, quand vous me parliez de Barack Obama, est-ce que vous pensez que fonder trop d'espoir en un homme, on va pas être trop déçu? Qu'est-ce que vous en dites, ça, de l'espoir et de la déception?
Oui, c'est ça, votre question, mademoiselle Hervouette, est combien à point? Il y a un phénomène en science des religions qu'on appelle le messianisme. Et en tant que spécialiste des rapports entre religion, culture et politique, c'est justement le phénomène que j'ai constaté dans le cas de Barack Obama. On voulait tellement croire que ça allait changer. On avait tant d'espoir pour un changement non, un changement de société, un changement foncier dans la société américaine. Et cela ne s'est pas réalisé à cause des contraintes sûrement de la politique américaine, mais est-ce que le peuple américain dans cette élection qui vient de se passer, a-t-on répété le même phénomène? On a mis tant d'espoir, tout notre espoir, dans un homme d'affaires, un milliardaire, comme une autre forme de messianisme. Et c'est d'autant plus révélateur, mademoiselle Hervouette, qu'il nomme dans son cabinet des milliardaires, d'autres hommes d'affaires. Est-ce que ça veut dire donc que le salut, l'espoir, passe par l'économie, passe par les finances, passe par l'argent? Et je crois que l'espoir comme phénomène chez l'être humain dépasse largement la question la question pécuniaire.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui actuellement n'ont plus d'espoir? Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces gens?
Mais là, pour boucler la boucle, je pense à ce couple qui n'avait pas de nourriture, le couple qui s'est perdu dans les Adirondacks et qui sont passés d'un cheveu à la mort, de mourir de froid. Mais c'est l'espoir qui les a gardés en vie. Et puis ils ont dit, on va trouver une issue. Et c'est ça le génie de l'espoir, c'est que l'être humain a tant de ressources, et souvent ces ressources sont internes, sont à l'intérieur de soi-même, que nous, par la créativité et par la raison, on peut trouver une issue. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean-Paul Sartre dans un livre qui m'a profondément influencé, Huit clos.
Oui, effectivement.
Du moment qu'on pense que c'est huit clos, eh bien, c'est fini, c'est terminé. Or, je maintiens que la condition humaine, tant qu'il y a de l'espoir, il y a toujours une issue. Mais il faut... L'espoir ne va pas contre la réalité, mais l'espoir, grâce à la créativité, grâce au raisonnement, avec une synergie et de l'imaginaire et de la raison, de la dimension rationnelle, trouve une issue à ce qui semble huis clos.
Merci beaucoup, professeur Cornette. Aujourd'hui, vous discutiez de ce que voulait dire l'espoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2017, professeur. Et merci beaucoup d'avoir été sur les ondes de Choc FM.
Mais volontiers, et je souhaite de l'espoir à l'auditoire de Choc FM et à vous personnellement, mademoiselle Hervouette.
Merci beaucoup, professeur.